connaissez un petit peu l'histoire de Don Calmé? Pas du tout. Vous découvrez, donc vous voulez que je vous en dise plus sur lui? Voilà, je vais le faire. Donc Don Calmé a 74 ans lorsqu'il publie en 1746 la première édition d'un livre qui s'intitule « Dissertation sur les apparitions des anges, des démons et des esprits et sur les revenants et vampires de Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie ». La différence, un petit peu de définition préliminaire, la différence entre un fantôme, un spectre et un revenant, que vous savez peut-être, c'est que le fantôme, c'est un être, une entité immatérielle, qui n'est pas incarnée, alors que le revenant est une entité incarnée, soit dans la personne qu'il était avant de mourir, soit dans quelqu'un d'autre, voire dans une forme animale. Voilà, donc dès qu'on a de la chair et de l'os, on est chez les revenants. Donc le vampire est bien un revenant ou un retournant. Et le fantôme, lui, n'est qu'un spectre, c'est-à-dire une forme immatérielle qu'on peut parfois apercevoir ou pas du tout dans le cadre des poltergeists, par exemple, c'est-à-dire dans le cadre de ces histoires où les choses se mettent à bouger toutes seules, etc., et où un certain nombre d'auteurs ont vu des manifestations de vampires, d'autres voyant des manifestations de lutins, d'autres voyant encore des manifestations du diable. Donc à l'époque, donc il n'est pas tout jeune, il a 74 ans, il est vraiment au fait de sa carrière, il est abbé de la riche et très influente abbaye de Senones, qui date du 7e siècle. Il a reçu cette charge en 1729 après un parcours sans faute. Alors, un parcours sans faute, pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et un travailleur acharné. Donc, il s'appelle Antoine au départ, Antoine Calmé, né à Ménil-la-Horgne, près de Commercy, peut-être que vous connaissez, certaines, voilà, dans la Meuse, le 26 février 1672. Il naît dans un milieu plutôt modeste, son père est maréchal ferrant, donc a priori, rien ne le destine à faire de grandes études, et pourtant, son père va vouloir lui donner une bonne éducation. Alors, il faut quand même savoir qu'à cette époque, une bonne éducation, ça passe effectivement par l'Église et par les collèges de l'Église, et que si on veut aller, j'y reviendrai un petit peu plus loin, et qu'on n'est pas un fils de grande famille, mieux vaut rentrer dans le clergé. Donc il fait de très brillantes études au petit collège du prieuré bénédictin de Breuil. Il fait ce qu'on appelle à l'époque ses humanités. Et puis il ira à l'université de Pont-à-Mousson où il va suivre pendant un an les cours de rhétorique. Donc je suppose qu'il avait la foi parce qu'il a quand même fait beaucoup de choses pour les abbayes de Lorraine et les églises, etc. Donc je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment la foi. Mais je suis dans le même temps convaincue que sa passion pour les études l'a vraiment poussé et a joué un rôle important dans sa décision de se faire moine. Donc en 1689, il prend l'habit monastique à l'abbaye bénédictine de Saint-Mansuy à Toul. Il va changer son prénom, comme c'est de règle, de coutume. Il s'appelle Antoine, il va se faire appeler Augustin, en hommage au saint évêque, au saint patron, saint Augustin du IVe siècle, qui a beaucoup écrit lui aussi et beaucoup philosophé. Donc le fait d'être moine lui permet de continuer et de poursuivre ses études théologiques. Il le fera pendant 6 ans, toujours à Toul, à l'abbaye Saint-Èvre, puis Saint-Èvre, je ne sais pas comment on dit, Èvre, voilà, puis à Münster. Il est ordonné prêtre en 1696, il est envoyé à Moyenmoutier où il poursuit ses travaux sur l'écriture sainte et toute sa vie sera désormais consacrée à l'étude et à l'enseignement. Donc il va enseigner le droit canonique, il va enseigner l'écriture sainte dans l'académie que crée l'évêque de Toul qui veut concurrencer, enfin concurrencer, qui trouve qu'en tout cas les monastères français ont des académies bien plus brillantes et que pour le coup ils voudraient créer en Lorraine et dans les trois évêchés une académie qui ait un petit peu de poids. Cette académie ne dure pas très longtemps d'ailleurs, et donc Almé retourne à Moyenmoutier. Il devient professeur de philosophie et de théologie pendant 6 ans, à la suite de quoi, au début du 18e, il va être prieur, chef de l'abbaye de Münster, redirigeant une académie d'une dizaine de religieux enseignants. Je le fais court, hein, je ne m'attarde pas, parce que c'est pas... Il sera prieur ensuite de Lay-Saint-Christophe en 1715, avec déjà la 3000 livres de rente. Posséder une abbaye au XVIIIe siècle, c'est posséder les terres qui vont avec, et donc ces terres qui sont affermées à des paysans qui cultivent, et forcément l'abbaye, elle vit des rentes de ces paysans. Et il faut savoir qu'avant la Révolution française, la plus grande partie des terres appartenait à l'Église. Et donc, non seulement on paie la dîme, la taille quand ils sont seigneurs, quand l'abbaye est seigneur, ce qui est souvent le cas, des terres, mais on a aussi, on loue en quelque sorte des terres à l'abbaye, et donc on paye cette location. Donc là, un petit peu de sous, il est nommé abbé de Saint-Léopold à Nancy en 1718, et pendant toutes ces années, qui vont après le mener à Senones, hein, en 29. Donc pendant toutes ces années, il ne cesse d'étudier les écrits des pères de l'Église et des commentateurs modernes, les classiques grecs et latins. Il connaît bien sûr le grec et le latin, c'est le minimum pour les religieux, mais il apprend l'hébreu aussi, tout seul d'ailleurs. Tout ce qui peut l'aider à commenter, à illustrer la Bible et les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament l'intéresse. Il va également visiter, il est visiteur de sa congrégation, et donc il va visiter la Franche-Comté, la Flandre, la Picardie, la Normandie, évidemment toute la Lorraine. Partout où il va, il visite les bibliothèques, il cherche les livres rares, il prend des notes, il va voir les libraires, voilà, il ramasse une documentation importante. Il est vraiment passionné par l'étude, il est curieux de tout, acharné au boulot. Et sa bibliographie compte une trentaine de livres. Alors, on pourrait, sans compter les nombreux manuscrits, la centaine de manuscrits qui n'ont pas été publiés, on pourrait penser que c'est assez peu, sauf que dans ces livres, on trouve par exemple le commentaire littéral de tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui compte 23 volumes, publiés de 1707 à 1716, puis qui l'augmentera puisque la troisième édition aura 25 volumes. Il y aura des traductions, c'est-à-dire qu'en plus c'est un auteur de best-seller pour l'époque. Tout ce qu'il publie marche très très bien, et il fait une histoire de l'Ancien et du Nouveau Testament en 2 volumes. Oh, c'est pas grand-chose, hein. Il fait une histoire universelle sacrée et profane depuis le commencement du monde jusqu'à nos jours. 17 volumes, voilà. Un dictionnaire historique, critique, chronologique, géographique, littéral de la Bible en 2 volumes auxquels il donnera des suppléments, qui est probablement le livre qui va le faire le plus connaître dans toute l'Europe et qui va assurer sa célébrité. Et c'est d'ailleurs un livre qui sera republié au 19e siècle dans une grande bibliothèque très célèbre, qui est celle d'un autre abbé, qui est l'abbé Migne, et qui est l'Encyclopédie théologique en 50aine de volumes, et on republiera le dictionnaire de Don Calmé. Bref, tout ça pour vous montrer qu'avant 1746, même après d'ailleurs, Don Calmé est à la fois un religieux célèbre, respecté, qui a beaucoup de publications à son actif, qui est prieur d'une des plus riches abbayes de Lorraine et peut-être même de France. Il y a de grandes abbayes de l'autre côté quand même très importantes. Et qu'on se demande pourquoi, au milieu de tout ça, il va nous sortir une histoire en 2 volumes, ce bouquin sur les dissertations des apparitions des anges, des démons, des vampires, des revenants, etc., qui va lui valoir une volée de bois vert, Mais que diantre allait-il faire dans cette galère vampirique ? Voilà. Alors, c'est vrai que même s'il a des critiques, ce livre est un succès immédiatement, il y aura une deuxième édition, etc. Mais pourquoi à ce moment-là ? Ben, il se trouve qu'à ce moment-là, on a en France une invasion de vampires, mais une invasion de traités sur les vampires. Ils sont extrêmement à la mode. Et il se trouve que c'est d'ailleurs, s'ils sont à la mode, c'est d'ailleurs grâce, alors est-ce que c'est grâce, mais c'est lié en tout cas à l'histoire de Lorraine, puisqu'il va y avoir des garnisons militaires qui vont être envoyées dans tous ces pays qui sont les pays de l'Est, en fait. Hein, bon, on y reviendra tout à l'heure. La Hongrie, bon, c'est resté à peu près la Hongrie. La Bohême, c'est une région qui fait partie de la République tchèque. La Moravie correspond à la partie orientale de la République tchèque. Enfin, orientale, l'Orient, pour moi, il est là, mais pour vous, de l'autre côté. Et la Silésie est un État qui s'étendait sur trois pays, la Pologne, la République tchèque et le nord de l'Allemagne. Voilà. Et il se trouve que des garnisons donc militaires sont envoyées dans ces pays et que là, ils hallucinent parce qu'ils voient les gens déterrer des morts, les empaler, etc. Et donc là, ils découvrent ce qu'on appelle les vampires. J'y reviens. Donc, le traité de Don Calmé va être en deux volumes. Il y a ce premier volume qui traite des anges, des démons... etc. Alors pourquoi il commence par ça alors qu'on a eu au XVIIe siècle, au XVIe siècle plein de bouquins parlant de ça et que franchement ils en ont fait depuis les démonologues de la Renaissance, on en a fait le tour de ces problèmes là il y a l'ouvrage de Le Loyer au XVIIe siècle qui est parfait sur le discours des spectres. On a vraiment pas besoin d'un Don Calmé pour reprendre ça. Eh bien si alors il... Ah ben c'est bien, c'est tout à l'envers. Là, je suis à la page 1, 2... Excusez-moi. Comme je suis toute seule, qu'il faut que je me débrouille, là. Voilà. Donc, je vais prendre la page 4. Voilà. Donc, il nous l'explique dans le tome 1. Donc, il faut que je lise. Alors, il sait que son sujet n'est pas nouveau. Il le dit. Oui, d'accord. D'autres auteurs avant moi ont déjà beaucoup parlé des apparitions, des anges, des démons, des fantômes, etc. Effectivement, c'est le cas. Mais lui, c'était pas son propos, dit-il. Lui, il voulait parler des vampires de Hongrie ou des broucolaques de Grèce, puisque c'est leur nom, des excommuniés qui ne pourrissent pas, qui ont fait, et je le cite, qui ont fait tant de bruit dans le monde depuis un certain temps. Effectivement, on ne parlait que ça dans les cours de France et de Lorraine. Mais il a trouvé, dit-il, une importante documentation, évidemment. Je veux dire, il a, pour ses dictionnaires sur l'Ancien Testament, il a épluché la vie des pères de l'Église, la vie des saints, qui est remplie d'histoires d'apparitions, de dragons, de fantômes, etc. Donc il en a des notes là-dessus, hein, de résurrection, évidemment. Le Nouveau Testament lui-même... met en place la résurrection de Lazare, par exemple, pour ne citer que lui. Et donc il dit, voilà, je voulais parler des vampires, mais j'ai trouvé tellement de documentation sur les fantômes, les esprits, etc., que j'ai fait une première partie sur les fantômes, les anges, les démons, voilà. Et puis dans ma deuxième partie, je vais vous parler des vampires. Alors, dans les deux parties, il travaille toujours de la même façon. C'est pas un hasard si ce livre s'appelle « Dissertation sur », même si la troisième édition s'appellera « Le traité des vampires », machin, tout ça. Il disserte. Alors, il prend un texte, alors il disserte, alors il nous donne des exemples d'apparitions dans les textes sacrés. Ancien Testament, Nouveau Testament, Vie des Pères, etc. Dans l'Antiquité, il mélange même des textes de poètes de l'Antiquité. Pas grand-chose à voir, il sera très attaqué là-dessus. Et comme il sera attaqué là-dessus, il dira pour se défendre, mais dans l'édition d'après, il dit, mais je n'ai rapporté leurs propos que pour égayer la matière, pour l'ornement du discours. On veut bien. Donc il parle aussi des croyances de l'Antiquité, montre les erreurs et la naïveté du paganisme, mais grosso modo dans cette première partie, et pas loin dans la seconde, il ramène tout au diable, comme ça se faisait à l'époque. Alors, il y a un problème, il y a un truc, il y a un fantôme, oui c'est le diable qui l'agite, avec évidemment la permission de Dieu, mais c'est... voilà. Alors il donne un élément, il donne les objections qui ont été faites ou les commentaires sur cet élément par des auteurs de l'époque, que ce soit dans l'Antiquité ou après dans une période moderne. Et après, lui, il dit ce qu'il en pense, jamais de façon très tranchée quand même. Hein. Peut-être que oui, mais peut-être qu'aussi, mais peut-être oui, puis on pourrait dire que c'est pas terrible. Bref, ce premier tome est un fatras qui franchement n'apporte rien de nouveau et est très en dessous de certains livres, dont le traité des spectres de Le Loyer, par exemple. Mais par contre, personne encore en France, enfin en français en tout cas, n'a évoqué les vampires. En dehors de Gazette, parce que les Gazettes, le Mercure de France va rapporter je vous en lirai d'ailleurs, des propos sur les vampires. Le Glaneur, qui est un journal franco-hollandais, va aussi rapporter des témoignages sur les vampires. Voilà. Donc le tome 2, dissertation sur les revenants encore, les excommuniés, les oupires ou vampires, on les appelle ou oupires ou vampires, et les broucolaques. Donc Almé dit rapporter ce qu'on a écrit sur ces revenants, et effectivement il va recopier la plupart des articles, des petits traités qu'on trouve sur les revenants, plus des lettres qu'on va lui envoyer, sachant qu'il travaille là-dessus. Je vous l'ai dit, l'épidémie de spectre, en tout cas de vampire, atteint vraiment son paroxysme dans les années 1730, et de la Russie à la Bohème, en passant par l'archipel grec, etc., on parle beaucoup de ces revenants qui font mourir les gens en leur suçant le sang. Alors Calmé nous explique ce que c'est un vampire. Il nous dit, voilà, ce sont des hommes morts depuis un temps considérable qui sortent de leur tombeau et viennent inquiéter les vivants, leur sucent le sang, leur apparaissent, font le tintamarre à leurs portes et dans leurs maisons, et enfin leur causent souvent la mort. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'idée de vampire, mais aussi l'idée de poltergeist, là. C'est-à-dire d'esprit frappeur. On les appelle vampires ou oupires, qui signifie en esclavon, donc peut être la langue de la Slavonie, qui est une partie de la Croatie, qui signifie sensu, tout simplement. On s'en délivre en les déterrant, en leur coupant la tête, en les empalant, en les brûlant, en leur perçant le cœur. Le premier chapitre de cette partie sur les vampires est intitulé « La résurrection d'un mortel et l'ouvrage de Dieu seul ». Et ce chapitre donne le ton de tout l'ouvrage, de tout ce qui sera développé ensuite de façon, pardon pour vous, monsieur Calmé, mais assez brouillonne. Le principe est le même que dans le tome 1, il rapporte un fait de vampirisme, il donne les différentes explications sur ce fait, il finit de dire, par dire ce qu'il en pense. Mais il pose dès le départ le principe que rien n'est possible sans Dieu. Il est religieux, je pense qu'il a la foi, effectivement, mais il sait aussi qu'il n'aura pas l'autorisation d'imprimer autre chose que ça, si tant est qu'il ait envie d'écrire autre chose. Hein. Parce que depuis, justement, les inquisiteurs de la Renaissance, l'idée que Dieu autorise, y compris le démon, à faire un certain nombre de choses, l'Église a mis 10 siècles à combattre le paganisme, puis les hérésies manichéennes, pour faire vite, enfin pour faire gros, parce qu'il y en a eu plusieurs, qui sont à chaque fois des croyances qui nous renvoient à la gnose, c'est-à-dire qui nous renvoient au premier texte du christianisme, ceux qui n'ont pas gagné, parce que le christianisme au départ, ce sont quand même beaucoup de sectes différentes, et il y a une secte qui a gagné sur les autres. Il se trouve que c'est pas celle qui était qui figure aujourd'hui dans ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, et qui dit que effectivement il y a des forces du bien, il y a des forces du mal, mais elles sont à égalité. Voilà. Évidemment, ces hérésies ont été combattues, et pour le coup, tous les religieux, des inquisiteurs jusqu'à Don Calmet et même après lui, vont dire et affirmer que Dieu permet tout ça. Dieu permet au diable d'agir, Dieu permet aux fantômes de revenir, Dieu permet... Il a ses raisons, que la raison ne connaît pas, en tout cas que nous ne connaissons pas. Voilà. Donc la question de la résurrection pour les vampires, elle ne pose pas de problème. On peut effectivement ressusciter. La preuve. D'ailleurs, très souvent, il va chercher les preuves dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou, comme je le disais encore une fois, dans des textes de l'Antiquité qui sont des textes poétiques et qu'on ne peut pas prendre, qui sont des textes mythologiques qu'on ne peut pas prendre au premier degré. Là, Don Calmet, il n'est pas le seul d'ailleurs, mais enfin, je terminerai par l'article de Voltaire sur les vampires et sur le short qu'il taille à Don Calmet, qu'il a fréquenté, puisqu'il est allé à la vie de ce non-Voltaire. On est dans une autre vision. Voilà. Donc, il se sert de tous ces exemples. Vous voyez, ça existe. Voilà. Donc, la résurrection ne pose pas de problème. Donc, je passe sur toutes les histoires de l'Antiquité qui sont toujours les mêmes dans tous les bouquins sur le sujet pour arriver à ce qui fait l'originalité vraiment de ce livre parce qu'elles n'ont été avant lui imprimées nulle part ailleurs, ces histoires, qui sont les histoires de vampires. Et donc, je vais vous en lire quelques-unes. Donc, il les tire, je vous disais, des gazettes de l'époque, de petits fascicules, petits livres qui ont été imprimés sur le sujet, mais soit en latin, soit en allemand, et de lettres que lui envoient ses amis. Donc, je vais vous lire une histoire de vampire qui est tirée d'un livre d'un auteur qui s'appelle Michel. Alors moi je suis pas germaniste, alors je vais dire une horreur, je vais Rauf, et ça doit être Rauf, mais bon, R-A-U-2-F, Rauf, voilà, et qui s'intitule, donc là je suis un tout petit peu plus à l'aise, De masticatione mortuorum intumulis, c'est-à-dire des morts qui mâchent dans leur tombeau. Et un petit peu moins en France, mais en Allemagne, au Moyen-Âge, on a beaucoup de morts mâcheurs. On en a un peu en France. Hein. C'est-à-dire les morts mâcheurs, ce sont des morts qui mâchent leur suaire. C'est comme ça. Voilà, donc ce livre est publié en 1728, et il en reprend beaucoup d'extraits, donc je vais vous en lire un pour que vous voyez... ayez une idée de ces histoires de vampires telles qu'elles sont publiées à l'époque. Donc, l'exemple le plus remarquable que Rauf cite, nous dit Don Calmet, est celui d'un nommé Pierre Plogojovitz, enterré depuis 6 semaines dans un village de Hongrie. Cet homme apparut la nuit à quelques-uns des habitants du village pendant leur sommeil et leur serra tellement le gosier qu'en 24 heures, ils moururent. Il périt ainsi 9 personnes, tant vieilles que jeunes, dans l'espace de 8 jours. La veuve du même Plogojovitz déclara que son mari, depuis sa mort, lui était venu demander ses souliers. Ce qui l'effraya tellement qu'elle quitta le lieu pour se retirer ailleurs. Ces circonstances déterminèrent les habitants du village à tirer de terre le corps de Plogojovitz et à le brûler, pour se délivrer de ses infestations. Ils s'adressèrent à l'officier de l'empereur qui commandait dans le territoire et au curé du même lieu pour obtenir la permission d'exhumer le corps de Pierre. L'officier et le curé firent beaucoup de difficultés d'accorder cette permission. Mais les paysans déclarèrent que si on leur refusait de déterrer le corps de cet homme, qu'ils ne doutaient point qu'il ne fût un vrai vampire, c'est ainsi, entre parenthèses, qu'ils appellent les revenants ou les rédivives, qui était un autre terme de revenant, le retour des vivants, ils seraient obligés d'abandonner le village et de se retirer où ils pourraient. L'officier de l'empereur qui a écrit cette relation, voyant qu'il ne pouvait les arrêter ni par menace ni par promesse, se transporta avec le curé du village. Ayant fait exhumer Pierre, ils trouvèrent que son corps n'exhalait aucune mauvaise odeur, qu'il était entier et comme vivant, à l'exception du bout du nez qui paraissait un peu flétri et desséché, que ses cheveux et sa barbe étaient crus, ça veut dire avaient cru, avaient du verbe croître, mais là on est dans un texte du 18e, et qu'à la place de ses ongles qui étaient tombés, il lui en était venu de nouveau, que sous la première peau qui paraissait comme morte et blanchâtre, il en paraissait une nouvelle, saine et de couleur naturelle. Ses pieds et ses mains étaient aussi entiers qu'on les pouvait souhaiter dans un homme bien vivant. Ils remarquèrent aussi dans sa bouche du sang tout frais que ce peuple croyait que ce vampire avait sucé aux hommes qu'il avait fait mourir. L'officier de l'empereur et le curé ayant diligemment examiné toutes ces choses et le peuple qui était présent en ayant conçu une nouvelle indignation et s'étant de plus en plus persuadé qu'il était la vraie cause de la mort de leurs compatriotes, accoururent aussitôt chercher un pieu bien pointu qui lui enfoncèrent dans la poitrine, d'où il sortit quantité de sang frais et vermeil, de même que par le nez et par la bouche. Il rendit aussi quelque chose de la partie de son corps que la pudeur ne permet pas de nommer. Ensuite, les paysans mirent le corps sur un bûcher et le réduisirent en cendres. Voilà un de ses premiers récits tirés donc du livre de M. Michel Raouf. Alors, le glaneur hollandais, 1732, 1728, 1732, a rapporté beaucoup, beaucoup d'histoires de vampires à l'époque. Alors, en voici une autre qui met un nouvel élément bien connu des amateurs de vampires, qui est le vampire passif. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là. Dans un certain canton de la Hongrie, le peuple croit que certains morts qu'il nomme vampires sucent tout le sang des vivants, en sorte que ceux-ci s'exténuent à vue d'œil au lieu que les cadavres, comme des sangsues, se remplissent de sang en telle abondance qu'on le voit sortir par les conduits et même par les pores. Cette opinion vient d'être confirmée par plusieurs faits dont il semble qu'on ne peut douter vu la qualité des témoins qui les ont certifiés. Nous en rapporterons ici quelques-uns des plus considérables. En voilà un. Il y a environ 5 ans qu'un certain Arnold Paul fut écrasé par la chute d'un chariot de foin. 30 jours après sa mort, 4 personnes moururent subitement et de la manière que meurent, suivant la tradition du pays, ceux qui sont molestés par les vampires. On se ressouvint alors que cet Arnold Paul avait souvent raconté qu'aux environs de Kassova, il avait été tourmenté par un vampire turc, car il croit aussi que ceux qui ont été vampires passifs pendant leur vie les deviennent actifs après leur mort. C'est-à-dire que ceux qui ont été sucés sucent aussi à leur tour, mais qu'il avait trouvé moyen de se guérir en mangeant de la terre du sépulcre du vampire, voilà une bonne recette hein, si vous êtes mordu par un vampire, et en se frottant de son sang, précaution qui ne l'empêcha pas cependant de le devenir après sa mort. Il fut exhumé 40 jours après son enterrement et on trouva sur son cadavre toutes les marques d'un archivampire. Et effectivement, c'est toujours pareil dans toutes les déclarations. On reconnaît un vampire à quoi ? Eh bien, on reconnaît un vampire au fait que son corps était vermeil, ses cheveux, ses ongles, sa barbe s'étaient renouvelés, ses veines étaient toutes remplies d'un sang fluide et coulant de toutes les parties de son corps sur le linceul dont il était environné. Donc, le bailli du lieu en présence de qui se fit l'exhumation et qui était un homme expert dans le vampirisme fit enfoncer, selon la coutume, dans le cœur du défunt Arnold Paul, un pieu fort aigu, dont on lui traversa le corps de part en part, ce qui lui fit, dit-on, jeter un cri effroyable, comme s'il était en vie. Cette expédition faite, on lui coupa la tête et l'on brûla le tout. Après cela, on fit la même chose sur les cadavres des 4 autres personnes mortes de vampirisme, crainte qu'ils n'en fissent mourir d'autres à leur tour. Parce qu'ils avaient été mordus par des vampires, etc. Toutes ces expéditions n'ont cependant pu empêcher que vers la fin de l'année dernière, c'est-à-dire au bout de 5 ans, ces funestes prodiges n'aient recommencé et que plusieurs habitants du même village ne soient péris malheureusement. Dans l'espace de 3 mois, 17 personnes de différents sexes et de différents âges sont mortes de vampirisme, quelques-unes sans être malades, d'autres après 2 ou 3 jours de langueur. On rapporte, entre autres, qu'une nommée Stanoska, qui s'était couchée en parfaite santé, se réveilla au milieu de la nuit toute tremblante en faisant des cris affreux et disant que le fils de Milo, qui était mort depuis 9 semaines, avait manqué de l'étrangler pendant son sommeil. Dès ce moment, elle ne fit plus que languir et au bout de 3 jours, elle mourut. Etc., etc. Je ne vais pas vous... Non, il y en a tout un paquet. Et donc, il conclut en disant... ces histoires-là, donc, il nous donne des avis de l'époque en disant que ça a été prouvé, etc. Mais lui, quand même, sur cette histoire-là, conclut que c'est la peur. Hein, que c'est la peur qui les a fait... Voilà, donc ça, c'est une histoire de vampire passif. Oh, je ne vais pas vous lire les lettres tout de suite, ça va, mais je vous lirai peut-être une ou deux lettres après qui lui sont écrites, quelle heure il est, parce qu'il faut pas que... Oui, ça va, c'est bon. Alors, quelles explications il donne ? Ben, c'est simple. Dans un cas de vampirisme, il y a trois explications. La quatrième, c'est Dieu. Donc Dieu, comme il est partout, on va dire 3 explications éventuellement. Première explication, c'est l'imagination. On est dans l'illusion. C'est-à-dire les gens pensent que, mais ce n'est pas le cas. Deuxième explication, parce qu'on ne peut pas donner ça à chaque histoire. Il y a des histoires où il dit, bon là, voilà, là c'est la peur, c'est l'imagination, c'est pas possible. Il y a d'autres histoires où il dit, et d'ailleurs il donne tout un tas d'exemples de scientifiques, il va chercher des démonstrations abracadabrantes pour montrer que les gens ne sont pas vraiment morts. Voilà, alors probablement c'était le cas dans un certain nombre de... On sait très bien qu'à l'époque on a enterré des gens qui étaient dans des comas par exemple et qui étaient susceptibles de se réveiller. Donc voilà, les gens ne sont pas vraiment morts, on les enterre et tout d'un coup ils ressortent. Voilà. Mais il se dit, mais alors, attendez, ils ne sont pas vraiment morts, ils ne sont pas vraiment morts. Mais alors, il y a quand même un problème. C'est que pourquoi, quand ils ressortent, ils se mettent à aller sucer le sang des gens et à faire tout ça ? Ce n'est pas très logique, mais bon, ça peut être. De la même façon, si c'est une illusion, si c'est pure imagination... Qu'est-ce qui leur donne cette imagination ? D'où elle vient cette imagination ? Qui leur a fait le scénario initial ? Le diable. Pourquoi ? On n'en sait trop rien, mais les desseins du diable sont comme les desseins de Dieu. C'est pas... Des fois, c'est un petit peu tourneboulé, on ne sait pas trop, peut-être pour... peut-être pour faire revenir d'anciennes croyances. Peut-être pour que ce soit des qui croient aux revenants et qui reviennent un petit peu au paganisme. Oui, mais alors il y a un problème. Parce que si le diable fait ça, et si le diable ne peut faire ça qu'avec l'autorisation de Dieu, pourquoi Dieu autorise le diable à donner des illusions ou autorise des gens à ressusciter pour qu'après il aille tuer d'autres gens ? Et là... Dans les dissertations de Don Calmé, la réponse n'est pas vraiment très apparente. Donc, il s'en sort bien en donnant une foule d'exemples de l'Antiquité, du machin, mais machin, il noie le poisson. Mais évidemment, il ne peut pas répondre à ces questions. Voilà. Et puis, donc, la troisième raison, c'est le démon tout court, c'est-à-dire le démon qui se joue des humains et qui, comme des marionnettes, dit-il, prend les morts et puis les agite et fait faire des choses. Mais là encore, il se dit, oui, mais le diable quand même, est-ce qu'il a le pouvoir de faire ça ? Question. Est-ce qu'il a le pouvoir ? Et puis on revient, ça se mord la queue. Oui, mais s'il a le pouvoir, qui lui donne ce pouvoir ? Forcément, c'est Dieu. Et pourquoi Dieu donnerait ce pouvoir ? Et bon, finalement, on aboutit toujours à l'impasse traditionnelle. Les voies du Seigneur sont impénétrables. L'affaire est close. Voilà. Donc, c'est vrai que ce... Après, je vais vous laisser poser des questions, parce que... et je vous lirai les lettres si vous voulez. C'est vrai que ce traité des vampires est très intéressant, parce qu'il est le premier en français à l'époque. C'est un best-seller, donc ça prouve bien que c'est à la mode à l'époque. Hein. Il y a 3 éditions en quelques années. Ça va vraiment valoir à Don Calmé des critiques et des intellectuels et philosophes de l'époque qui vont intervenir en disant « on est quand même au siècle des Lumières ». Donc voilà. Et ce don calmé, eh bien, il meurt à 85 ans, en 1757. Et cela va lui éviter le désagrément de lire l'article que Voltaire publie dans son dictionnaire philosophique au terme « vampire ». Voltaire qui sera hébergé à l'abbaye de Senones pendant quelques semaines, je crois, ou quelques mois. Il prend les eaux à Plombières et puis, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui arrive là, qui est son ennemi, et il dit « hop, je vais aller voir donc Calmé à Senones ». Voilà. Et j'aime, alors, je ne vous le donne pas en entier parce qu'il est long, mais j'ai pris quelques extraits et je vois là, voilà la fin. Voilà. Voilà. Quoi, nous dit Voltaire ? C'est dans notre XVIIIe siècle qu'il y a eu des vampires. C'est sous le règne des D'Alembert, des Diderot, des Saint-Lambert, des Duclos qu'on a cru aux vampires et que le révérend père Dom Augustin Calmé, prêtre bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Idulphe, abbé de Senones, abbaye de 100 000 livres de rente, ajoute-t-il, a imprimé et réimprimé l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne, ce qui est vrai. Ces vampires étaient des morts qui sortaient la nuit de leur cimetière pour venir sucer le sang des vivants, soit à la gorge, soit au ventre, après quoi ils allaient se remettre dans leur fosse. Les vivants suçaient, maigrissaient, pâlissaient, tombaient en consomption, et les morts engraissés prenaient des couleurs vermeilles, étaient tout à fait appétissants. C'était en Pologne, en Hongrie, en Silésie, en Moravie, en Autriche, en Lorraine, que les morts faisaient cette bonne chair. On n'entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J'avoue que dans ces deux villes, il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires qui sucèrent en plein jour le sang du peuple. Mais ils n'étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans les cimetières, mais dans des palais fort agréables. Qui croirait que la mode des vampires nous vint de la Grèce ? Ce n'est pas de la Grèce d'Alexandre, d'Aristote, de Platon, d'Épicure, de Démosthène, mais de la Grèce chrétienne, malheureusement, schismatique. Et là, il met vraiment le doigt sur, il est d'ailleurs le seul à l'époque, sur un élément déterminant du vampire, vous allez voir. Depuis longtemps, les chrétiens du rite grec s'imaginent que les corps des chrétiens du rite latin enterrés en Grèce ne pourrissent point parce qu'ils sont excommuniés. C'est précisément le contraire de nous autres, chrétiens du rite latin. Nous croyons que les corps qui ne se corrompent point sont marqués du sceau de la béatitude éternelle. Eh oui. Les Grecs sont persuadés que ces morts sont sorciers. Ils les appellent broukolakas ou vroukolakas, selon qu'ils prononcent la seconde lettre de l'alphabet. Ces morts grecs vont dans les maisons sucer le sang des petits-enfants, manger le souper des pères et mères, parce que dans beaucoup d'histoires de vampires, effectivement, le vampire va manger avec la famille, boire leur vin et casser tous les meubles. On ne peut les mettre à la raison qu'en les brûlant, quand on les attrape, mais il faut avoir la précaution de ne les mettre au feu qu'après leur avoir arraché le cœur, qu'on ne brûle pas. Après la médisance, rien ne se communique plus promptement que la superstition, le fanatisme, le sortilège et les contes de revenants. Il y eut des broukolakas en Valachie, en Moldavie et bientôt chez les Polonais, lesquels sont du rite romain. Cette superstition leur manquait. Elle alla dans tout l'Orient de l'Allemagne. On n'entendit plus parler que de vampires de 1730 à 1735. On les guetta, on leur arracha le cœur, on les brûla. Ils ressemblaient aux anciens martyrs. Plus on en brûlait, plus ils s'en trouvaient. Calmé, enfin, devint leur historiographe et traita les vampires comme il avait traité l'Ancien et le Nouveau Testament, en rapportant fidèlement tout ce qu'il avait été dit, tout ce qui avait été dit avant lui. Il ne fut plus question alors que d'examiner si tous ces morts étaient ressuscités par leur propre vertu, ou par la puissance de Dieu, ou par celle du diable. Plusieurs grands théologiens de Lorraine, de Moravie et de Hongrie étalèrent leurs opinions et leurs sciences. Le résultat de tout ceci ? C'est qu'une grande partie de l'Europe a été infestée de vampires pendant 5 ou 6 ans et qu'il n'y en a plus. Que nous avons eu des convulsionnaires en France pendant plus de 20 ans et qu'il n'y en a plus. que nous avons eu des possédés pendant 1700 ans et qu'il n'y en a plus, qu'on a toujours ressuscité des morts depuis Hippolyte et qu'on n'en ressuscite plus, que nous avons eu des jésuites en Espagne, en Portugal, en France, dans les deux Siciles, et que nous n'en avons plus. Voilà, et j'adore ce... Voilà, on a... Alors, c'est pas comparable, mais lire le dictionnaire, lire un ouvrage religieux comme l'ouvrage de Don Calmé, et lire derrière ce que je vous conseille vraiment, si vous l'avez chez vous, si vous ne l'avez pas lu, la lecture du dictionnaire philosophique de Voltaire, c'est un régal, et on est là dans l'intelligence et dans la conscience en même temps, conscience politique, conscience... une philosophie très ancrée dans la vie. Voilà, et il est le premier à parler des vampires, ce terme de vampire qui d'ailleurs sera aussi appliqué aux financiers, après aux financeurs et tout ça. Voilà, c'est d'un humour, d'une intelligence, d'une finesse, d'une délicatesse qui est loin d'être celle de votre bon abbé Don Calmé. J'ai deux lettres à vous lire, mais si vous avez des questions, je ne veux pas vous... Comme je suis toute seule, je dois faire l'intervieweur, le machin, le truc. Donc, je vous laisse poser éventuellement vos questions. Si tant est que je puisse y répondre, j'essaierai. Vous n'avez pas de questions? Vous voulez que je vous... Ah oui, voilà.
Est-ce qu'il y a des choses déjà... actuellement, les vampires, c'est les vampires un petit peu qu'on connaît, c'est ceux qui sont dérivés, je pense, en gros, c'est les Dracula-like.
Oui, c'est ça, oui. Non. Il donne des histoires un petit peu de toutes les. D'abord, son livre est pas pédagogique, c'est-à-dire que c'est bon, vraiment, on passe d'un truc à l'autre, c'est hein, voilà. Et en plus, il travaille toujours de la même façon. Il donne un exemple. Alors, quand je dis un exemple, il recopie le chapitre du livre, il recopie l'article du glaneur, il disserte. Il explique, mais non, il ne fait aucune... À un moment donné, il parle des striges de l'Antiquité. C'est-à-dire, il dit, y a-t-il eu des ancêtres aux vampires? Est-ce que les striges de l'Antiquité qui venaient manger les enfants, etc., au berceau, striges d'ailleurs qui ont été mises en avant par les inquisiteurs de la Renaissance pour le sabbat des sorcières? C'est à partir de la strige qu'on a commencé à imaginer qu'elles s'envolaient, etc., et que... Martin Lefranc a dessiné un ballet par hasard sur un manuscrit et qu'après, derrière, l'idée du ballet, à partir du XVIe siècle, est partie. Mais il n'est pas du tout... on est dans des... Ce sont des corps qui ne pourrissent pas, donc vraisemblablement des excommuniés pour ces peuples-là, qui sont des peuples... Effectivement, le schisme de l'Église... grec, c'est-à-dire qu'on a l'église de rite latin et l'église orthodoxe à un moment donné. Les orthodoxes sont ceux qui disent qu'ils gardent l'orthodoxie du début, c'est-à-dire qu'ils restent fidèles au premier christianisme et non pas au faste de l'église, à ses richesses, etc. etc. Donc ils se différencient quand même par un certain nombre de règles de l'église latine et du coup, les chrétiens. Les chrétiens latins en pays orthodoxe, ils peuvent très bien rester encore. On est face à des vampires. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous dire que j'ai vu sur Arte, peut-être vous l'avez vu aussi, ou sur la 5, je ne sais plus, il y a 5-6 mois, une exécution de vampires en Roumanie, là, l'année dernière. Pareil, hein, on l'a déterré, on lui a mis le pieu, etc. C'est-à-dire, ça reste encore très, très, très présent comme croyance que ces revenants reviennent, sont dangereux, peuvent tuer, et qu'il faut absolument... Alors oui, Bram Stoker, pour écrire Dracula, les lettres, va effectivement s'inspirer directement de ces récits-là. Hein. Et d'ailleurs, tous les auteurs, même contemporains, qui vont parler de vampires, vont aussi dire n'ont rien inventé. Voilà, quelque part, les histoires, elles sont là. Et voilà, après, on s'en sert, ce sont des personnages. Mais on a encore eu ça de la même façon que... mais bon, on n'a pas de... On se garantit d'un mort parce qu'il arrive du malheur quelque part. On s'en garantit avant. Quand on sent que c'est un mort bizarre. Au Moyen-Âge, on avait la plus grande peur, c'était la malemort. Voilà, la malemort. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les premiers livres célèbres, etc., étaient des arts de mourir. Hein, c'était très important d'apprendre l'art de mourir. Et la malemort, c'était vraiment c'était les mauvais morts, ceux qui étaient morts par suicide, par accident, sans avoir le temps d'avoir été confessés, etc. Ce sont des mauvais morts. Et ces mauvais morts sont ceux qui reviennent pour quémander des messes. Alors, on a aussi des vampires qui viennent redemander des choses hein, pour demander des messes, pour demander des pèlerinages, et il y a quelques histoires aussi de quittance. Alors, ça, c'est que soit réglée une situation qui n'était pas réglée. Voilà, je meurs et j'ai une dette, eh bien, je vais aller hanter mon fils pour que la dette soit payée, etc., et que je puisse après être tranquille. Alors, ce qu'il faut savoir dans toutes ces histoires, c'est que la plupart du temps, elles étaient... bon, je m'écarte un tout petit peu du sujet, mais je finis là-dessus. C'était ce qu'on appelait des exemplats, c'est-à-dire que ces petites histoires qui étaient écrites par des clercs... puissants généralement, des moines, etc., pour servir et envoyer dans les évêchés pour pouvoir les donner aux prêtres des paroisses pour constituer leurs sermons. Et donc, on a comme ça des petits exemplats qui sont des pour faire peur, en fait, aux paysans. Et puis, voilà, c'est des petits récits d'édification. Et on se rend compte qu'après, dans les livres des démonologues de la Renaissance, on trouve beaucoup de ces exemplaires. C'est-à-dire que le peuple les intègre, les raconte, et puis finit par les redonner, et que derrière, les inquisiteurs les récoltent et se disent « Ah ben voilà, il y a ça ». Mais en fait, c'est parti au départ d'un exemplaire qui a été mal interprété, déjà par le curé, par ceux qui l'ont entendu, etc., etc. Donc, le coup de la quittance, qui est un thème redondant des mémoras, c'est-à-dire de ces contes qui n'en sont pas. On a des contes populaires, puis les mémoras, c'est des histoires qui étaient racontées dans les campagnes à la veillée, mais qui ne sont pas des contes. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui, vous avez vos amis autour d'une table, et quelqu'un va parler de je sais pas, ben, la mère, la voisine d'à côté a fait ceci, etc., etc. Et puis, bon, là, c'était des histoires de fantômes, des histoires de lutins, des histoires de fées. Ah, mais vous savez, Madame Machin, elle a vu une fée dans son jardin, mais je vous assure. Ah, mais si, c'est terrible, et tout ça, ils y croient. Et puis, ah, mais vous savez que Madame Machin m'a dit que Madame Machin, etc. Et ça, un siècle après, c'est devenu une histoire qu'on raconte dans le lieu, pas forcément une légende, parce qu'elle n'est pas toujours localisée, elle se balade. Voilà, et donc les histoires de quittance comme ça, c'est un thème récurrent des mémoras autour de la mort et du diable. Mais c'est vrai que c'était très très important, cet art de mourir, et que il y a énormément de superstitions attachées à la mort. Je suis en train, alors je ne suis pas de la pub parce qu'il ne sera pas sorti avant un an et demi, mais je suis en train de préparer un dictionnaire des superstitions, mais de façon thématique, la naissance, la mort, etc., etc. Et voilà, la mort, ça remplit sur les 1000 pages, je dois avoir 300 pages sur la mort, donc c'est très très, la mort, l'amour. En fait, c'était aussi les deux lieux de la sorcellerie, les sorts, c'est la mort, l'amour. Voilà, je referme la parenthèse. Vampire ou question ou lettre. Quelle heure il est ? Vous voulez que je vous lise une lettre ou vous en avez assez ? Oui ? Bon, je vais lire une lettre. Allez, il nous reste 10 minutes. On va lire une lettre. Pour satisfaire aux demandes de Monsieur l'abbé Don Calmé concernant les vampires, le sous-signé a l'honneur de l'assurer qu'il n'est rien de plus vrai et de si certain que ce qui l'on aura sans doute lu dans les actes publics et imprimés qui ont été insérés dans les gazettes par toute l'Europe. Mais à tous ces actes publics qui ont paru, Monsieur l'abbé doit s'attacher pour un fait véritable et notoire à celui de la députation de Belgrade, ordonné par feu Sa Majesté impériale Charles VI, de glorieuse mémoire, et exécuté par feu Son Altesse Sérénissime, le duc Charles-Alexandre de Wurtemberg, ça fait rien, pour le vice-roi patati patata. Ce prince fit partir une députation, alors il ne se souvient plus quand, je ne puis pour le présent citer l'année, ni le mois, ni le jour, faute de mes papiers, dit le gars, que je n'ai point présentement près de moi. Ce prince fit partir une députation de Belgrade, Serbie, moitié d'officiers militaires, moitié du civil, avec l'auditeur général du royaume, pour se transporter dans un village où un fameux vampire décédé depuis plusieurs années faisait un ravage excessif parmi les siens. Car notez que ce n'est que dans leur famille et parmi leur propre parenté que ces suceurs de sang se plaisent à détruire notre espèce. Cette députation fut composée de gens et de sujets reconnus par leurs mœurs et même par leur savoir irréprochable et même savants parmi les deux ordres. Ils furent sermentés et accompagnés d'un lieutenant des grenadiers du régiment du prince et de 24 grenadiers du dit régiment. C'est ce que je vous disais en entrée, c'est les militaires qui ont ramené tout ça. Tout ce qu'il y eut d'honnêtes gens, le duc lui-même, qui se trouvèrent à Belgrade, se joignirent à cette députation pour être spectateurs oculaires de la preuve véridique qu'on allait faire. Arrivé sur les lieux, l'on trouva que dans l'espace de 15 jours, le vampire oncle de 5 tant neveux que nièces en avait déjà expédié 3 et un de ses propres frères, tué. Il en était au 5e, belle jeune fille, sa nièce, et l'avait déjà sucé 2 fois, lorsqu'on mit fin à cette triste tragédie par les opérations suivantes. On se rendit avec les commissaires députés pas loin de Belgrade, dans un village, et cela en public, à l'entrée de la nuit, à sa sépulture. Ce monsieur n'a pu me dire les circonstances du temps auquel les précédents morts avaient été sucés, ni les particularités à ce sujet. Mais la personne, après avoir été sucée, se trouva dans un état pitoyable de langueur, de faiblesse, patati patata. Il y a environ 3 ans qu'il était enterré. L'on vit sur son tombeau une lueur semblable à celle d'une lampe, mais moins vive. On fit l'ouverture du tombeau et l'on y trouva un homme aussi entier et paraissant aussi sain qu'aucun de nous assistants. Les cheveux, toujours pareil, les cheveux, les poils de son corps, les ongles, les dents et les yeux, aussi fermement attachés après lui qu'ils le sont actuellement après nous qui avons vie et qui existons, et son cœur palpitant. Ensuite, l'on procéda à le tirer hors de son tombeau, le corps n'étant pas à la vérité flexible, mais n'y manquant nulle partie, ni de chair, ni d'os. Ensuite, on lui perça le cœur avec une épée de lance de fer rond et pointu. Il en sortit une matière blanchâtre et fluide avec du sang, mais le sang dominant sur la matière. Et ils sont extrêmement précis, là, le gars qui écrit la lettre. Le tout n'ayant aucune mauvaise odeur, ensuite de quoi on lui trancha la tête avec une hache semblable à celle dont on se sert en Angleterre pour les exécutions. Il en sortit aussi une matière et du sang semblable à celle que je viens de dépeindre, mais plus abondamment à proportion de ce qui sortit du cœur. Au surplus, on le rejeta dans sa fosse avec force chaud vive pour le consommer, c'est écrit comme ça, c'est pas consommer, consommer plus promptement. Et dès lors, sa nièce qui avait été sucée 2 fois se porta mieux. À l'endroit où ces personnes sont sucées, il se forme une tache très bleuâtre. L'endroit du sucement n'est pas déterminé, tantôt c'est en un endroit, tantôt c'est en un autre. C'est un fait notoire, attesté par les actes les plus authentiques et passé à la vue de plus de 1300 personnes dignes de foi. C'est-à-dire que là, il y a eu un public de 1300 personnes et il y a eu des actes authentifiés, des juges, etc. D'ailleurs, il y a des parlements entiers qui se sont déplacés, qui ont attesté, etc. Mais je me réserve, pour satisfaire plus en plein la curiosité du savant abbé Don Calmet, de lui détailler ce que j'ai vu à ce sujet de mes propres yeux et le remettrai à monsieur le chevalier, patati patata, son très humble et très obéissant serviteur, Bellose, ci-devant capitaine dans le régiment de son Altesse, etc., etc. Bon, il y en a encore une autre, mais voilà, je pense que ça va être l'heure, je ne vais pas pouvoir vous lire tout ça. Quelle heure il est ? Ouais, ça c'est l'heure, je ne peux pas aller plus loin que ça. Voilà. Merci. Merci.